Allez-y. Non, une seconde. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Kruger.
Sortez.
On a envie de l'eau. Faire l'amour avec l'eau.
Bonjour Bertrand Gautreau, alors vous êtes venu de votre Champagne avec l'envie de l'eau, pourtant cette année n'en a pas beaucoup manqué. Vous arrivez de la Côte des Bars, vous avez quitté les parcelles de Vouette et de Sorbet pour venir nous parler de l'eau qui est dans ce sol jurassique vieux de 150 millions d'années et que... Vos cèpes, vous êtes venu avec vos cèpes, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec deux cèpes et un peu de cette pierre jurassique assez jeune en fin de compte.
Ouais, assez jeune, 150 millions d'années, oui. On a des terrains beaucoup, beaucoup plus jeunes en Champagne, dans les Grands Blancs, mais nous on est à côté de Chablis sur ces sols qui sont très compacts, où les pierres sont cubiques, sont taillées à la serpe. Ces pierres qui construisent nos maisons, tout simplement. Visitez un village de vignerons où vous avez déjà la salive du vin que vous allez boire. Rien qu'à regarder ces pierres.
Alors Bertrand Gautreau, vous êtes vigneron, mais vous l'avez pas. Vous êtes un néo-vigneron puisque votre père était le paysan qui était sur la terre avant et vous avez eu envie de faire du champagne qui avait goût de cette terre.
Oui, c'est un petit peu une longue histoire, mais je pense que c'est simplement par idéalisme ou par plaisir, en disant moi j'aimais pas le champagne. Vraiment, je préférais de très bons vins très simples, des Beaujolais, des vins de Loire, des vins du Jura. Mais pourquoi est-ce que le champagne est mondialement connu? Je m'y retrouvais absolument pas dans les vins que je buvais dans les fin des années 80, 90, dans ces champagnes-là et dans ces raisins qu'on livrait à la coopérative. Donc voilà, j'aimerais bien boire mon vin et que ce soit le vin du village, tout simplement. Et l'histoire a commencé comme ça.
Et l'histoire, elle est influencée par quelqu'un comme Anselme Sélos?
Alors, elle est influencée, oui, par Anselme, sans conteste. Et puis, par des gens qui m'ont mis les mains dans la terre ou qui m'ont permis de voir les entrailles de la terre. Je pense à Claude Cossura dans les années 80, à Claude et Lydia Bourguignon qui ont fait un travail extraordinaire sur les argiles, la classification de la, ce qu'on appelle la pédologie.
Ils sont venus en parler à cette table.
Ça m'a passionné de voir toute cette vie. Moi, j'ai des vaches pour faire mes composts, pour pas acheter de produits extérieurs à la ferme. Et quand on voit des vaches dans un pré, il y a 2-3 fois plus de poids d'animaux dessous, dans la terre, qui vivent, qui grouillent, des collemboles, des bactéries, des levures, des bêtes qui rampent, qui courent, qui galopent. Et donc toute cette respiration, cette digestion, elle doit avoir une incidence énorme sur ce qui vit au-dessus de la terre. Donc ces deux cèpes plantés par mon papa, dans une parcelle qui s'appelle Sorbet, Et voilà, elle était partagée entre les deux frères, inéquitablement, puisque moi j'avais la chance d'avoir 80% de cette parcelle, et mon grand frère a eu la gentillesse de m'échanger les 20% restants. Et donc quand je suis rentré dans la partie de mon frère avec mon cheval de trait à l'époque, les cèpes bougeaient à chaque passage de cheval, et donc voilà, on a arraché des cèpes avec le cheval par des manœuvres malencontreuses. Et voilà ce qu'on trouve, un système racinaire complètement
plat. Vous pouvez nous le décrire parce que le cèpe, c'est très radiophonique.
Oui, je vois, j'imagine. Le cèpe, donc, il y a la partie qui est aérienne sur laquelle on va trouver les rameaux et les raisins. Et puis, il y a la partie souterraine qui va faire une trentaine de centimètres. Et à partir de ces 30 centimètres, démarrent toutes les racines qui vont permettre l'alimentation du plant. Et donc, cette alimentation, la racine, elle va comme nous, comme l'eau, elle va au plus facile. Elle va où elle trouve sa nourriture le plus facilement. Et là, on voit...
Et elle a envie de l'eau, elle.
Elle a envie de l'eau, elle a envie des minéraux. Et puis, il y a des choses où elle ne peut pas aller. Où elle aurait bien envie, mais c'est bloqué, c'est fermé, la porte est verrouillée. Donc, on voit ce cep qui a été pendant de longues années en agriculture... Bah, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, durable, chimique, raisonné, enfin
oui,
peu importe.
Raisonné.
Qui
ne
a...
pas dire, ce qui ne veut pas dire raisonnable, forcément.
Ouais, ça, ça dépend quels sont les critères du raisonnement. Et donc, on voit ce système racinaire qui est arrivé à 30 cm en dessous de la surface de la Terre, de la peau de la Terre, cette masse de racines qui va s'étaler à l'horizontale. Et on voit même des racines qui veulent remonter à la surface de la Terre, tellement il n'y a pas de vie dans cette
respirer.
Terre, tellement il manque d'air et il manque d'eau. Ou bien on a de l'eau compactée, l'eau qui ne circule pas, on est en anaérobiose et on est dans l'hydromorphie.
Jonathan Nociter, dans son film, montrait bien les deux terres. En plongeant, comme le fait Claude Bourguignon, en plongeant la main dans la terre, on voit bien qu'une terre qui a été travaillée à la chimie est morte. Et qu'une terre vivante respire et donne faim.
Alors c'est vrai que c'est un des critères les plus importants qu'on voit lorsque l'on montre les deux sols, puisque l'histoire de famille fait que les terres sont partagées entre mon père et mon oncle, donc j'ai toujours un cousin dans les parages pas loin, donc c'est très facile de montrer une terre vivante et une terre moins vivante, on va dire. Et ce qui va frapper quand les terres de mon grand-père, on prend une pioche et qu'on montre les deux terres à des Japonais, peu importe, tout le monde comprend, il y a la couleur, il y a la texture, on a une terre qui va qui est formée de petits legos, de blocs, etc., compactés, puis vous avez une terre qui ressemble à la semoule. Et vous voyez la brillance. Et cette terre qui est brillante, où les minéraux n'arrivent pas à bouger, où les insectes ont disparu depuis bien longtemps, c'est un film d'eau. L'eau, c'est de la terre de poterie. L'eau, elle ne peut plus circuler. C'est le premier élément de la vie, avant l'air, avant le gaz. Donc déjà, l'eau, elle ne circule plus. Et vous avez une terre, au contraire, où les animaux et la symbiose avec les systèmes racinaires de ce que l'on appelle les mauvaises herbes auront levé la terre et l'auront fait gonfler comme une pâte à pain. Et là, l'eau, elle va pouvoir circuler. Et l'eau et l'air, c'est la vie. L'autre cep faisait partie de ma partie viticole, donc qui est certifiée en agriculture biodynamique depuis 1998. Donc, de la vigne comme on a fait pendant 6 ou 8 000 ans. Aujourd'hui, les bio sont des gens bizarres, mais bon, ça fait 8 000 ans que ça existe. Et on voit si clairement que les racines descendent vers l'intérieur, vers le centre de la Terre, vers les entrailles de la Terre. Elles sont toutes pleines de virages, de tortuosités, comme si on était sur le Monte Carlo. Elles évitent les cailloux et elles vont chercher dessous avec les petits poils absorbants. Voilà. Et on voit, en fait, les erreurs qu'ont commis mon père, enfin, peut-être une erreur où c'était les choses qui existaient à l'époque.
Oui,
ces anciennes racines qui étaient horizontales, qui sont encore 99% de la Champagne, cette agriculture avec produits chimiques de synthèse. Voilà. Donc, bien entendu, la vigne bouge, en fait. On imagine qu'une vigne est immobile, mais quand on est en automne, les racines vont progresser d'un centimètre par jour. Et elles vont aller chercher là où est la nourriture, là où elles ont bon vivre. Et on voit que dans un cas, elles vont vraiment vers le centre de la terre, et dans l'autre cas, elles n'y ont pas accès. C'est fermé, c'est bouclé.
And I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew. And I find the very mention of you like the kicker in a julep or two.
Écoutez, Billy Holiday, c'est être toujours en vacances. Bertrand Gautreau, quand on pense à ces petites bulles de champagne qui nous remontent dans la tête, quel goût ont-elles? Quelle saveur ont-elles? Qu'est-ce que vous cherchez, vous, aujourd'hui, quand vous faites du champagne?
Ah, donc, il y a deux choses. On est vraiment en bonne compagnie, on est là pour se détendre, on va boire du champagne pour le plaisir, on va boire du champagne pour les premières vapeur, pour les premiers arômes, pour ces côtés briochés, pour cette bouche dynamique, etc. Et puis, il y a l'envers du décor, qui est peut-être pas le plus agréable, mais qui va être le Graal du vigneron. Et le Graal du vigneron, c'est de goûter son sol. Et se dire, ça, ben, on n'est pas capable de le faire sur Terre, on est capable d'envoyer des fusées, on est capable de faire des milliers de choses, mais la Terre, on est incapable de la fabriquer. Et c'est bien ça la grande quête du vigneron, c'est de savoir quel goût ça a. Et le goût de cette terre, si on y réfléchit bien, eh bien c'est l'eau minérale. Et donc, dans nos vins, on va essayer de trouver cette limpidité, on va essayer de trouver cette source de vie comme un torrent qui dévalerait nos collines. Et ça, on l'a à la fin du verre. Vous avez passé toute la partie du cépage, la partie du millésime, la partie du coup de patte du vigneron, c'est ce qui va vous faire votre nez, votre bouche, votre longueur. Ça y est, vous avez fini, votre bouche est vide, ça fait 2 minutes que vous n'avez pas goûté le vin. Pourtant, il va rester une empreinte, il va rester quelque chose. Et là, ça va se placer. C'est placé de chaque côté de votre langue, c'est placé au fond où elle s'accroche, ou bien c'est placé devant. C'est angulaire ou c'est moelleux, c'est chaud. Vous avez tous ces touchés-là qui sont vraiment le sol, qui se dévoilent en dernier. C'est ce qui n'est pas transformable, pas copiable. C'est comme chez un être humain. Vous allez connaître la personne par sa voiture, par sa tenue vestimentaire, parce que vous avez passé du temps avec. Mais il va falloir beaucoup plus longtemps pour connaître ses origines, ses parents, d'où il vient, l'histoire de sa famille. Et ça, c'est pareil dans le vin. Si vous voulez connaître la terre, le jus du sol, eh ben c'est pas sur la dégustation de Guy Parker et compagnie que vous la connaîtrez. Ça, non, c'est du flan. Ce que le vigneron il cherche, ce que le vigneron peut-être que je suis un peu foudingue, j'en sais rien, mais c'est ce jus là, c'est cette odeur de cailloux.
Alors quel goût a ce jus?
Eh ben on revient un petit peu au départ de l'émission. Ce qui est très surprenant, c'est de voir qu'on a un jus et un toucher en bouche qui ressemble énormément aux matériaux que l'on trouve dans le sol. Et souvent, un vin qui va être poussé sur des argiles, on imagine tous de la terre de poterie, ces argiles un petit peu gras qui vous filent entre les mains. Et bien souvent, lorsque vous avez fini votre verre, depuis 1 minute, 2 minutes, vous n'avez surtout rien repris entre, pas un petit mets, rien du tout. Vous avez une persistance qui va être moelleuse, qui va vous faire penser à ce lait d'argile un petit peu. Lorsque vous êtes sur des sables ou sur des granites, qui sont des pierres où l'eau file, qui est complètement anguleuse et qui va être d'une limpidité extraordinaire, voilà, le vin va vous laisser cette impression-là. Vous avez fini au bout de 2 minutes votre verre. Est-ce que j'ai bu du vin? Est-ce que j'ai bu de l'eau? Quelle est cette sensation étrange où je ne suis plus dans mon monde. Et nous, on est sur des calcaires. Alors, on a cette chance inouïe d'être sur des calcaires. C'est des calcaires durs qui ont 150 millions d'années. Et ces calcaires durs, ils se comportent un petit peu comme un filtre à café. Donc, l'eau va percoler tout doucement à travers cette pierre. Et la racine va aller sucer dessous la pierre ces micro-stalactites et leur remonter ces carbonates de calcium dans la sève jusqu'à l'amener dans le raisin. L'homme, par une bonne idée, l'a transformé en vin. Et l'alcool, et en plus en champagne, les bulles, vont vous ouvrir les papilles pour passer ces carbonates de calcium dans votre sang. Et là, vous réalimentez votre machine en sels minéraux. Et le soir, quand vous êtes un peu fatigué, que vous avez transpiré, vous avez directement ces sels minéraux qui arrivent et qui vous font du bien. Et ces sels minéraux, chez nous, on est sur ce fameux chiméridien qui correspond au Grand Cru de Chablis. c'est très angulaire, c'est puissant. Donc vous allez saliver avec une grosse bulle, ça va être tendu en bouche, et vous allez presque sentir les angles de nos cailloux de chaque côté de votre langue. Ça va vous toucher, ça va vous irriter un petit peu, ça va vous titiller, voilà. Mais avec cet assèchement du calcaire, qui a toujours besoin d'eau, le calcaire.
Bertrand Gautreau, c'est redoutable comme exercice. Comment déguste-t-on du champagne?
Je vais vous faire une réponse de Normand. Non, je dirais presque à chaque personne sa dégustation. Parce qu'on peut avoir une dégustation où on va chercher la partie aérienne du produit. On va essayer de se créer une image. Et puis, il y a la dégustation qui a fait naître le test vin, qui est la dégustation du vigneron, où c'est, même en anglais, on appelle ça le testing. Et le testing, c'est tâter, c'est toucher, c'est écraser entre sa langue et son palais, entre sa langue et ses joues. C'est sentir cette réaction avec la salive. C'est avoir l'épaisseur du vin, ou sa rugosité, ou au contraire, son côté soyeux. Alors là, on va retrouver justement ces éléments physique du sol dont je vous parlais. Et là, on va faire une dégustation qui est un grand plaisir pour un vigneron qui en bave toute l'année avec sa pioche, avec ses sécateurs, mais qui est tout à fait une autre dégustation. On prépare d'abord un vin pour le plaisir et pour le bien-être des gens qui vont l'apprécier. Mais par derrière, on a cette petite idée à nous qui est de trouver ces minéraux, de trouver ce sol, et de dire « Ah, ça c'est mon copain qui habite à 200 km, qui fait un blanc magnifique sur le Jura, avec des Savagnins qui sont houillés, qui sont parfaits, et je sens cette terre parce que je suis allé avec lui dans sa vigne, et j'ai vu cet affleurement rocher. » Voilà, mais ça c'est le côté vigneron, dégustation vigneronne.
Et vous, comment vous le goûtez, votre vin ?
Moi, je le goûte davantage en fin de journée, et je le goûte comme une source d'énergie, parce qu'on est souvent un petit peu fatigué, et moi, j'ai besoin d'un petit remontant, si on peut dire, et je sais que c'est quelque chose qui me remplit et qui me redonne de la vigueur. Peut-être on va revenir à l'eau, parce que je suis né dans ce village-là, et j'ai toujours bu de l'eau du village, de Buxières-sur-Ars. Et d'ailleurs, c'est à cause de la source d'eau que j'ai passé toutes mes vignes en bio, puisqu'elles sont la source d'eau du village et au pied de mes vignes. Donc, quelle idée d'aller mettre des produits chimiques. Bon, peu importe.
Peu importe pas.
Mais... non, mais on s'éloigne un petit peu de la question. Mais comment je le bois, oui. Comment je l'apprécie, oui. Je l'apprécie parce que je sais que ça fait partie de moi-même. J'aime toujours manger des fruits, des légumes, du miel, des poulets qui ont mangé, qui ont vécu sur ce lieu-là. Et mon corps est conditionné par cette alimentation. Et donc, mon champagne fait partie de mon alimentation. Alors peut-être que c'est un peu de l'EPO pour moi, parce que ça va me redonner des bulles, ça va me redonner un petit peu d'alcool, ça va me redonner un coup de fouet. Je le vis d'abord comme ça, comme une source alimentaire, énergique.
Et vous le buvez à quelle température ?
Ah, plutôt 10-12, 12 sans problème, des fois 13, 14, 15. Non, c'est d'abord un aliment, c'est pas un glaçon.
Vous ouvrez la bouteille.
Mais on ouvre la bouteille et il faut penser au côté festif. Je pense que c'est une espèce de libération pour nous. On a du travail pendant plusieurs années dans les vignes avant d'avoir du fruit. On a plusieurs années en cave. Et ben on a déjà 4 années avant d'avoir notre première récolte. Et puis on va avoir 3, 4, 5 années en cave. Et petit à petit, on va, par des opérations de dégorgement, de tirage, etc., on va ramener le vin à la vie. Et l'étape ultime, c'est d'ouvrir la bouteille. Donc, je suis un petit peu contre cette ouverture religieuse où on imagine les gens un petit peu, on va dire, coincés parce qu'on boit une grande bouteille d'un grand terroir, d'un grand vigneron. Mais ça, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important pour nous, c'est de redonner la vie à notre vin. Et on lui redonne la vie quand un homme le consomme, quand une femme le boit. Et moi, j'aime bien ouvrir. Voilà. J'ai libéré mon vin. Je me retrouve avec cette année de 5, 6 ou 7 années de travail qui reviennent dans mon verre. Alors, c'est un peu la magie des bulles. Et tout de suite, ça embaume la pièce. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette...
Je suis un peu loin. Il faut que je me rapproche.
Vous voyez, vous me parliez de... À quel moment et comment je bois le champagne? J'ai pris une très grosse gorgée. Je ne l'ai pas bu du bout des lèvres. Parce que je veux avoir cette présence. Je veux avoir cette matière. Je veux la toucher, la sentir. Si je pouvais mettre les mains dans la bouteille, je le ferais. Mais je vais prendre une bonne gorgée. Et je vais me faire du bien. Et je vais la sentir, je vais la mâcher, je vais la tourner dans ma bouche. Et enfin, je vais l'avaler.
Oui, ça a l'air d'ailleurs de vous mettre en joie et c'est très contagieux. Mais alors, si vous êtes venu avec une pierre, un morceau de votre sol.
Ouais.
Donc une pierre qui a, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vient d'un sol qui a 150 millions d'années. Quel est le goût de la pierre par rapport au goût du champagne?
Alors, on va le retrouver là, sur le dessus de la langue. On sent cette pierre. Si vous voulez mettre la langue sur la pierre, c'est exactement pareil.
Je vais lécher la pierre, ça me paraît indispensable.
Vous allez avoir un assèchement. Vous avez la pierre qui veut chimiquement tamponner votre acide de votre salive. Et ça va créer l'appétence, ça va vous demander davantage de salive. Donc cette pierre-là, elle vous met énormément en appétit, vous êtes sur ces calcaires. L'homme en créant le vin a mis un petit peu de loup dans la bergerie, parce que avec cet alcool... Il vous crée tout de suite une petite euphorie, une petite libération de l'esprit. On ne maîtrise plus. L'alcool va déjà nous emmener vers quelque chose d'autre. Et voilà, vous avez vu au dos des bouteilles, on a mis parce que peut entraîner une euphorie passagère. Ben, c'est tout à fait ça. Et vous y retournez aussi bien pour cette euphorie passagère que pour ce bien-être minéral, ce bien-être salin, de remplissage de votre corps et d'une manière...
Ça, c'est un vin qui est fait avec du pinot noir.
Oui.
Vous êtes exactement équidistance entre Dijon et Reims.
Oui. Et c'est peut-être pour cette raison, en étant à 25 kilomètres de la frontière de la Bourgogne, à 25 km de la Côte d'Or, à 60 km de Chablis, on a énormément de jeunes dans notre région qui font des champagnes.
On peut citer des noms. Hein,
Moi, je pense à Olivier Oriot, je pense au frère Barbichon, je pense à notre cher guide spirituel aujourd'hui à la retraite, qui est Jean-Pierre Fleury, toujours bon pied, bon œil. Et on se retrouve sur une toute petite surface de la Champagne qui représente à peine 10%. Mais plus de 35-40% de la production de raisins bio et de vin bio. Il y a cette proximité avec le vin bourguignon, où là, on va pas s'encombrer des assemblages, des vieilles années, des millésimes, des étiquettes ronflantes et du marketing sparnassien. On est dans des vins qui sont naturellement des vins de terroir, ce qui nous a été reproché pendant tellement longtemps en étant les bad boys de la Champagne, parce qu'on a des vins qui sont trop expressifs.
Mais qui sont du vin, qui ont goût de vin.
Mais aujourd'hui, depuis une petite dizaine d'années, les choses changent et on a une clientèle qui ne goûte plus du champagne de cocktail, même si une grosse quantité goûte du champagne de cocktail, avec bonheur. On a une clientèle qui vient du monde du vin, qui vient du monde de la cuisine. Tout à l'heure, on parlait de Yves Candebord, on parlait de gens comme ça qui ont mis le vin au même niveau que la carotte, ou que le navet, ou bien qu'un joli pigeon. Et alors là, dans le champagne, il fallait se poser vraiment des questions et trouver ces produits-là qui reviennent dans l'assiette alimentaire. Je vais presque oser dire le bol alimentaire. Et donc dans le sud de la Champagne, sur la côte des Barres, où on a toujours été un petit peu des bourguignons de la Champagne, ça tombait sous le sens.
Champ.
ce sol vieux de 150 millions d'années, il a abrité des mers très anciennes. Est-ce qu'on retrouve le goût de la mer au fond du verre?
Alors on le retrouve tout à fait, à tel point que les Italiens font légèrement évacuer l'eau de l'huître pour remettre un petit peu de champagne pendant quelques secondes, et la réaction est surprenante. Et on retrouve ce côté iodé de l'huître dans le vin, et ça se marie parfaitement. Donc ces sols du Quimérigien sont en fait des accumulations d'animaux sur des centaines de milliers d'années qui sont compactés avec le temps. Et tout simplement, on retrouve cette salinité, cette minéralité dans le vin.
Si. Et en particulier dans les sols de
la Côte des Bars.
Dans les sols de la Côte des Bars.
Ouais. Mais d'une manière un petit peu différente. La Champagne est très vaste, mais tout le monde connaît en général la Côte des Blancs et la région d'Épernay ou la région de Reims. Là, vous avez des sols très très jeunes. Vous avez des sols qui ont entre 20 et 40 millions d'années. Donc l'action de la pesanteur et de la gravité terrestre est très récente, si on peut dire, par rapport à chez nous. Et donc les sols sont encore très très souples. Et l'alimentation de la vigne n'est pas du tout la même, parce que ce sol qui fait à peu près 40 mètres d'épais n'est pas encore fragmenté, n'est pas encore assez compact pour se casser. Donc les racines sont restées en surface et elles se nourrissent par le retour qu'on appelle la capillarité de l'eau qui remonte et qui emmène les sels minéraux en surface de la roche, qui est la roche qu'on connaît bien sur la Marne. D'où le toucher de vin, vous avez reçu Anselme, c'est l'os, qui est beaucoup plus crémeux. Et quand vous regardez ces pierres, et on y revient, quand on voit ces maisons de la Côte des Blancs, vous avez l'impression de prendre votre canif, et on peut le faire, et de creuser dans la pierre directement. Donc la pierre, la roche craie, qu'on appelle la craie, est tellement souple qu'elle vous le redonne dans le vin. Elle vous donne cette espèce de mousse, de crémeux en bouche. Chez nous, non, la pierre est dure comme du roc. Elle est angulaire, elle se casse, et il y a de la place pour que les racines descendent en dessous, et elle va chercher les minéraux dessous la pierre, elle va lécher le dessous de la pierre. Et donc on a ces minéraux qui sont des chaînes de calcaire, calcium, qui sont beaucoup plus longues et qui se placent différemment en bouche, parce qu'elles vont être un petit peu plus difficiles à casser par la salive. Parce que la salive, donc, elle va être produite en plus grande quantité, parce que vous avez des systèmes calcaires plus importants. Et c'est ce qui fait la différence en bouche des deux sols.
Ben merci beaucoup, Bertrand Gautreau. On va vous laisser retrouver vos sols, vos parcelles de Vouette et Sorbet.
Merci beaucoup.
Attention, voilà. 3, 4...
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son est de Valérie Lavalard et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 150 millions d'années, vous pouvez la podcaster seulement pendant un an et dans quelques instants, écouter le journal sur France Culture.